Studio Tamani, voici les informations en français.
Plus de 7 millions de Maliens ont besoin d'assistance humanitaire en 2024, selon OCHA. Ce chiffre a été relevé aujourd'hui lors de la présentation du plan de réponse humanitaire 2024 par OCHA. Le bilan provisoire de l'effondrement de la mine artisanale de Samaya Kobadani fait plus de 70 morts. Une délégation du gouvernement conduite par le ministre des Mines s'est rendue ce matin sur le lieu. Cannes Côte d'Ivoire 2023, plus que 16 nations qualifiées pour le prochain tour. Cette phase à élimination directe débute le samedi prochain. Voilà pour le sommaire de cette édition qui vous sera présentée par Imran Akilomida. Bonsoir à tous. Plus de 7 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire au Mali en 2024, dont 77% sont des enfants et des femmes. L'alerte a été donnée par OCHA, Agence onusienne de coordination des actions humanitaires. C'était lors du lancement du plan de réponse humanitaire 2024, ce jeudi 25 janvier au CICB. Ce plan vise à sauver et préserver la dignité des personnes vulnérables dans les zones en difficulté, assurer l'accès équitable des personnes aux services sociaux de base. Plus de détails avec Ziada Tamaï.
Selon le coordinateur humanitaire pour le Mali, l'année 2024 sera marquée par des besoins accrus d'assistance humanitaire. Cela dans un contexte de financement de plus en plus difficile. D'après lui, 32% de la population malienne a besoin d'assistance humanitaire en 2024. À cet effet, les organisations humanitaires ont besoin de 700,6 millions de dollars pour assister 4,1 millions de personnes. Alain Nedouhé, coordinateur humanitaire pour le Mali.
L'analyse intersectorielle effectuée dans le cadre de ce plan couvre donc l'ensemble des besoins. En 2024, à travers ce plan de réponse humanitaire, les partenaires humanitaires recherchent donc 701 millions de dollars pour assister 4,1 millions de personnes au Mali.
Pour sa part, le ministre de la Santé et du Développement Social a salué la mise en place de ce plan de réponse. Selon le colonel Assaba Diallo Touré, le gouvernement est engagé à accompagner la communauté humanitaire.
Si nous ne faisons rien, des vies seront perdues et le cycle de vulnérabilité se poursuivra. Les actions sécuritaires de l'État ont aussi permis le retour de plus de 9400 personnes déplacées internes dans leur localité d'origine.
À noter que 2,8 millions de personnes ont pu bénéficier d'assistance sur 5,7 millions ciblés en 2023, soit un taux de financement de 26,6% mobilisé, un chiffre jugé plus bas ces 10 dernières années par les organisations humanitaires.
Au même moment, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, annonce que près de 9 millions de personnes seront affectées par l'insécurité alimentaire en 2024. Le système d'alerte précoce ne partage pas le chiffre donné par l'UNICEF. Il invite en outre les partenaires internationaux à prioriser les critères conventionnels de la collecte des informations. Toutefois, Moussa Goïta, coordinateur national du SAP, encourage les populations à donner des informations fiables aux agents de terrain. Il est réagi au micro de Drahman Maïga.
Je suis étonné d'attendre ces chiffres de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Je ne sais pas quelle est la méthodologie d'évaluation que l'UNICEF a utilisée. Nous inscrivons aussi bien l'UNICEF que le système d'alerte précoce dans une méthodologie consensuelle qui a été pensée par le CILS pour mettre en place une méthodologie d'harmonisation des évaluations dans tous les pays de la sous-région. C'est pourquoi je demande à tous les chefs de ménage d'accepter de répondre aux questions qui vous seront posées par les enquêteurs commis par le système d'alerte précoce pour la collecte des données.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
Le bilan de l'effondrement de la mine artisanale de Samaya Kobadani dans le cercle de Kengeba s'est alourdi. Il est passé de 60 à 70 morts ce jeudi. C'est ce qui ressort d'une déclaration de la Chambre des mines, lue à la télévision nationale. Sur place, les opérations de secours se poursuivent pour extraire le corps. Une délégation du gouvernement conduite par le ministre des Mines s'est rendue ce matin sur le lieu du drame. Intala Akbilal.
73 corps sans vie ont été extraits à la date de ce jeudi matin des débris de l'effondrement de cette galerie aurifère de la région de Kolikoro. On était plus de 200 chercheurs d'or sur le site lorsque l'éboulement a commencé le vendredi. Pour le moment, de nombreux orpailleurs restent introuvables, mais la recherche se poursuit ce matin, nous a déclaré un orpailleur joint ce matin sur le site. Le nombre de victimes a été confirmé dans une déclaration du président de la Chambre des mines faite hier soir à la télévision nationale. Aussi, une délégation conduite par le ministre des mines Amadou Keïta s'est rendue ce matin sur le lieu du drame. À Kai, une tension persiste autour du site d'orpaillage de Kropoto, un village situé près de Sadiola sur la route de Kenyeba. Des sources locales rapportent que ce site d'orpaillage a été la semaine dernière le théâtre d'affrontements entre les villageois et les forces de l'ordre. Le bilan de ces échafourées serait de 2 villageois tués et 4 interpellés et mis en détention à Kai.
Les étudiants de l'Institut Polytechnique Rural de Katibougou Hyper Isfra ont observé une grève de 120 heures depuis le 23 janvier 2024. Il s'agit pour les étudiants de dénoncer la prédation foncière qui menace les espaces universitaires de l'établissement. Ils réclament en même temps la reprise des travaux de construction des infrastructures interrompues par les habitants du village de Katibougou. Les étudiants préviennent qu'en cas de non-satisfaction, ils entreprendront d'autres mesures pour se faire entendre.
Le journal de la CAN, suivez l'actualité de la CAN sur Studio Tamani.
On connaît désormais les 16 nations qualifiées pour la 8e de finale de CAN Côte d'Ivoire 2023. Ces phases qualificatives sont revenues aux 2 premiers de chaque groupe et 4 meilleurs 3e de la phase de poule. Draman Maïga.
Ils ne sont plus que 16 sur les 24 qualifiés pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le tableau final a été connu à l'issue des 4 dernières rencontres d'hier nuit. Si des nations comme le Ghana, l'Algérie ou encore la Tunisie sont tombées dès le premier tour, d'autres ont créé la sensation. Il s'agit entre autres de la Mauritanie, la Namibie, le Cap-Vert. Après une attente de plus de 48 heures, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, accède au 8e de finale en tant que meilleur 3e. Les éléphants affronteront le champion en titre, le Sénégal. Le Mali, qui a terminé leader du groupe E, hérite des étalons du Burkina Faso. Le duel se jouera le mardi 31 janvier à Korogo. L'affiche à ne surtout pas manquer sera sans doute Nigeria-Cameroun. Ces matchs à élimination directe débutent dès ce samedi 27 janvier. Pour rappel, les nations qualifiées pour les 8e de finale sont la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Cap-Vert, l'Égypte, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, l'Angola, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la RD Congo, la Côte d'Ivoire et le Mali.
Hier nuit, les Aigles se sont qualifiés premiers de leur poule malgré le match nul concédé face à la Namibie. Le coach Eric Sekouchel explique ce résultat par le changement de climat suite au voyage de Korogo à San Pedro. Toutefois, il assure qu'ils vont travailler et trouver les ressources nécessaires pour faire face au Burkina en 8e de finale. Eric Sekouchel est au micro de notre envoyé spécial Zamongo.
Déjà, il y a un voyage qui a été fait de Korogo. Et on arrive dans un climat qui n'est pas du tout le même, un climat assez humide. Et je dois vous dire que les organismes ont été très touchés. Ça, plus les deux matchs à haute intensité. Moi, maintenant, le gros du travail, c'est d'être efficace dans la préparation physique. Maintenant, encore une fois, le Burkina, c'est une très bonne équipe. Voilà, comme je le disais tout à l'heure en interview, ils ont un milieu très agressif. Ils ont un point d'appui en attaque qui est très intéressant. Et ça va être une bonne position. Et puis, je suis content de rencontrer nos frères.
Pour des analystes sportifs, cette phase de poule de la CAN à Côte d'Ivoire 2023 a été marquée par des grandes surprises. Adama Maïga, journaliste sportif, pense que si certaines équipes ont fait de belles prestations, d'autres ont déçu le public sportif. Il le joint au téléphone par Ousmane Nyalibouli.
Ce premier tour a été très prolifique en buts. On a eu au total 89 buts en 36 matchs. Vraiment, la surprise qu'on peut noter dans ce premier tour, c'est surtout la qualification de la Namibie et de la Mauritanie pour la première fois pour le deuxième tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la déception, c'est surtout les éliminations des équipes nationales du Ghana, de l'Algérie et de la Tunisie, qui était vraiment cité parmi les favoris de la compétition. Donc il faut noter également que la Guinée équatoriale, en termes de surprise, a terminé comme l'équipe avec la meilleure attaque à l'issue de ce premier tour avec 9 buts marqués. Donc je pense que ça aussi c'est une surprise. Il faut noter également la qualification très difficile des pays hôtes, la Côte d'Ivoire.
Les supporters maliens ont suivi avec beaucoup d'intérêt entre les aigles du Mali et leur homologue de la Namibie. Si certains supporters sont satisfaits de la prestation de l'équipe malienne, d'autres sont restés sur leur faim. Écoutons-le en fin de match au micro de Khalifa Goïta.
C'est un sentiment de joie, de fierté. On a une très bonne équipe. La suite, cette équipe peut aller très loin. Continuons de la soutenir toujours.
Je suis vraiment contente. Quand même, nous sommes toujours qualifiés.
Les joueurs n'ont pas fait leur devoir. Ils auront pu au moins marquer un but.
On a suivi un très bon match. Bon, le match nul, ça nous arrange tous. Mais nous, les supporters, nous préférions une victoire. Après la prestation de ce soir, moi, personnellement, je suis satisfait. L'entraîneur, selon moi, il a essayé, les autres joueurs aussi. Il n'y avait pas pression sur nous, il y avait pression sur l'adversaire.
Mauvaise performance à la CAN égale formation militaire dans un camp. La CAN en une anecdote nous parle de cette histoire incroyable qui a eu lieu en 2000. Khalifa Goïta.
Le 31 janvier 2000, la Côte d'Ivoire est éliminée prématurément de la CAN. Le même soir, les éléphants montent dans un avion spécial à Accra, au Ghana. Ils croient décoller pour Abidjan, mais le pilote vole en douce vers Yamoussoukro. À l'arrivée dans un aéroport aux lumières éteintes, des militaires les accueillent. Ils viennent d'atterrir au camp de Zambakro. Sur place, les joueurs vont passer des jours au cachot. À l'issue de cette période, le général Robert Gueye, président de la Côte d'Ivoire, à l'époque, a menacé les joueurs de devoir remplir 18 mois d'obligations militaires en cas de récidive. Les éléphants ont dû chanter l'hymne national au garde-à-vous avant de quitter les lieux.
Ainsi se referme ce journal qui vous a été présenté par Imran Akilomaïga. Mais avant, nous recevons Marianne Koulibaly sur le site du festival Ogobagna pour nous parler du thème qui sera animé dans le Grand Dialogue.
Ici sur le site du festival Ogobagna, nous allons parler du thème « Comment prendre soin de son corps sans l'abîmer ». Et nous allons en parler ce soir avec Madame Traoré Fata Doumangourou de Moussokoroba Nafa, Dr Aminata Bokoum de l'entreprise Lakika Cosmétique et Dr Mohamed Traoré, pharmacien. Et le débat sera animé en Bambara.
Merci Mariam Koulibaly, ainsi se referme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les établissements scolaires ayant une bibliothèque en leur sein deviennent rares au Mali, ce qui en ont peu de livres de lecture, rendant du coup difficile l'accès aux livres pour les enfants. Mais grâce à Internet, des plateformes numériques proposent des livres aussi bien qu'aux adultes qu'aux enfants. Malgré tout, le constat montre que les élèves aussi bien que les étudiants lisent peu. Comment changer cette donne? Des acteurs de l'éducation donnent leur avis dans ce magazine réalisé par Mamadou Samassé avec le concours du correspondant de Kita.
Dans ce cycle, on reçoit des élèves qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Le gros problème, c'est ça. Ils n'ont pas la volonté aussi.
Cette déclaration vient d'un enseignant d'une école fondamentale de la région de Kita. Issu de la même école, écoutant ses élèves qui se sont exprimés sur la lecture des documents physiques et des livres en ligne.
Notre professeur nous a dit que c'est important qu'on s'initie à la lecture. Je faisais la lecture. C'est le syllabaire que je lisais. Pourquoi tu aimes tant la lecture? Je lis pour être fort. J'aime la lecture, mais je n'ai pas de livre. Es-tu au courant qu'on peut en trouver sur Internet? Je ne suis pas au courant de cela. Est-ce que tu souhaites de l'aide pour t'en procurer?
Des parents d'élèves regrettent que les NTIC ne soient pas profitables aux ruraux. Pour Djougamadi Sissoko, membre de la Fédération des parents d'élèves, c'est le système d'enseignement même qu'il faut revoir.
Téléphone Android au niveau de nos ruraux, c'est pas tous les enfants qui ont des téléphones comme ça. Le système classique que nous on avait quand on était jeunes, c'était de façon à apprendre le français phonétiquement et maintenant de faire aussi une bonne lecture tous les jours en classe. Actuellement, les maîtres ne peuvent même pas ça. Alors l'enfant n'arrive pas à lire et l'enfant n'a pas quelqu'un à la maison qui peut même le faire lire. Donc il ne s'intéresse vraiment pas du tout à la lecture et je vois que c'est le système même qui n'est pas adéquat dans ce sens.
La lecture des livres en elle seule est toute une école, affirme Mohamed Touré. Notre enseignant en psychologie ajoute qu'il est important de faire en sorte que les enfants prennent goût à la lecture.
L'enfant doit être organisé sur le plan matériel que sur le plan intellectuel. Et dans cette organisation du calendrier intellectuel de l'enfant, on peut prévoir par exemple des moments moment de lecture. Et à partir de la lecture de l'enfant, on peut s'intéresser à comprendre quel est le centre d'intérêt pour l'enfant, quel type de livre intéresse l'enfant. Si on arrive à découvrir cet intérêt, l'intérêt va créer la passion. Une fois que la passion s'installe, l'enfant est bien parti pour ne plus abandonner la lecture. Et au lieu du début, ça devient un amour entre l'enfant et la lecture.
Les pédagogues Cédou Loua suggèrent que pour relever le défi de la lecture des livres par les enfants, en plus de l'État, il faut l'implication de tous.
La première chose à faire est que les adultes d'abord se mettent à lire. Et la deuxième chose, effectivement, les parents et les enseignants doivent mettre les enfants à la lecture. Déjà, le rôle de l'État, ça peut être doter toutes les écoles d'une bibliothèque ou en tout cas d'un centre de documentation équipé en documents physiques et si possible en documents électroniques. Le reste, ça, ce sera le travail des enseignants et des parents.
Nos interlocuteurs indiquent qu'il sera nécessaire de temps en temps songer à organiser des concours de lecture de livres et distinguer les lauréats. Ils espèrent aussi que les états généraux sur l'éducation récemment tenus dans le pays trouveront une réponse à cette inquiétude et tant d'autres soucis de l'école malienne.